Bonjour, je suis Olivier. Bienvenue dans le podcast de Ninartrait. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre « Vous êtes ce que vous croyez ». Les clés de vos 10 états de vie de Karin Arsen est un livre de développement personnel à dimension psychospirituelle publié chez Fayard. Elle, autrice, journaliste et animatrice, propose une exploration guidée de 10 états de vie, présentée comme une sagesse ancienne réinterprétée avec un langage accessible et ancré dans les préoccupations actuelles. Elle, idée directrice, et que le bien-être dépend moins des circonstances que du regard intérieur et des croyances qui orientent la perception, les émotions et les choix. Le livre invite à reconnaître des états émotionnels allant de vécus difficiles comme le désespoir ou la colère, à des expériences plus ouvertes comme la compassion et la plénitude, sans les hiérarchiser moralement. La démarche alterne récits inspirants et exercices pratiques, annoncés comme appuyés par des apports des neurosciences. Afin d'aider le lecteur à traverser ses mouvements intérieurs, développer une relation plus bienveillante à soi et renforcer des habitudes mentales plus soutenantes au quotidien. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, le bonheur comme affaire de regard intérieur et de croyance. Le livre S organise autour d'une idée structurante, ce que l'on vit intérieurement influence fortement la manière dont on interprète les événements. Et cette interprétation pèse sur la qualité de vie. Plutôt que de promettre une matrice totale du réel, elle approche met l'accent sur les croyances, les récits que l'on se raconte et les filtres émotionnels qui colorent l'expérience. En ce sens, la question centrale devient moins que monsieur arrive-t-il et que comment est-ce que je le lis. Cette perspective déplace la recherche du mieux-être vers un espace de action concret, le travail sur l'attention, la signification donnée aux situations et la façon de se parler à soi-même. Le propos vise aussi à déculpabiliser, changer de regard ne signifie pas nier la difficulté, mais reconnaître qu'il existe une marge de transformation dans la manière de accueillir. En reliant croyances et états de vie, elle, autrice, propose un cadre pour repérer les automatismes mentaux et retrouver de la souplesse psychologique. Elle intérêt, dans un paysage de développement personnel parfois centré sur des injonctions, est de présenter la transformation intérieure comme un chemin progressif, nourri par l'observation de soi et des pratiques reptables. Deuxièmement, les 10 états de vie comme cartographie des expériences humaines. Le cœur du dispositif repose sur 10 états de vie, décrits comme une grille de lecture des émotions et des postures intérieures. Le livre évoque explicitement un spectre allant du désespoir à la plénitude et de la colère à la compassion, ce qui suggère une progression possible sans réduire à l'humain à une échelle simpliste. Elle, enjeu principal, est d'apprendre à nommer ce qui se passe en soi, à identifier elle état dominant du moment et à comprendre ses effets sur le corps, les pensées et les relations. Cette cartographie sert aussi à rappeler qu'aucun état N est permanent. En pratique, cela peut aider à ne pas confondre un état avec une identité, être traversé par la colère ou la tristesse ne signifie pas être condamné à la colère ou à la tristesse. Une autre idée importante est que chaque émotion, même sombre, peut contenir une forme de lumière, c'est-à-dire une information utile, une énergie à transformer ou un besoin à reconnaître. En présentant les états comme visitables, l'autrice encourage une attitude d'exploration plutôt que de lutte. Le lecteur est invité à se situer, à circuler et à construire des ponts vers des états plus ouverts, sans chercher à s'extraire brutalement de expériences vécues. Troisième moment. Accueillir les émotions difficiles et transformer les pensées toxiques, un fil conducteur du livre consiste à traiter les émotions dites négatives non comme des impasses, mais comme des étapes qui peuvent être traversées. Cette posture évite deux écueils fréquents, la dramatisation qui fige et le positivisme force qui nie. Elle, autrice, insiste sur l'idée qu'aucune blessure N est une fatalité, formulation qui renvoie à la possibilité de guérison psychique et de changement de trajectoire, même lorsque des schémas se répètent. Le travail proposé vise alors la transformation, repérer les pensées toxiques, comprendre comment elles alimentent certains états de vie, puis apprendre à les reconfigurer. Dans ce cadre, la bienveillance envers soi devient un levier central, non pas comme un slogan, mais comme une pratique qui modifie la relation à l'erreur, à l'imperfection et à la vulnérabilité. En reconnaissant la fonction des émotions, le lecteur peut passer de la réaction automatique à un choix plus conscient, se donner du temps, demander du soutien, poser une limite ou réorienter son attention. L'intérêt de cette approche est de relier clairement l'expérience émotionnelle à des actions intérieures possibles. Tout en conservant une vision réaliste, on ne supprime pas les états difficiles, on apprend à ne pas s'y enfermer. Quatrième moment. Récits inspirants et exercices pratiques comme méthode d'appropriation, la méthode annoncée combine des contes inspirants et des exercices pratiques, avec une volonté de rendre les idées directement utilisables. Les récits jouent un rôle pédagogique. Ils permettent de saisir une dynamique intérieure sans passer uniquement par un discours conceptuel et favorisent, elle, l'identification du lecteur à des situations humaines. Les exercices, au nombre de 44 selon les présentations publiques, structurent l'accompagnement en donnant des points d'appui concrets pour l'introspection et la mise en mouvement. le livre les présente comme validés par les neurosciences, ce qui, sans nécessiter une lecture académique, suggère une attention portée aux mécanismes de l'attention, de l'habitude et de la régulation émotionnelle. L'intérêt pratique est de transformer la lecture en expérience au lieu de seulement comprendre, le lecteur est invité à observer. Écrire, reformuler, respirer, choisir un focus ou installer une routine. Cette alternance entre narration et pratique soutient la mémorisation et réduit le risque de lecture passive. Dans un domaine où beaucoup d'ouvrages se contentent d'exhortations générales, la présence d'exercices donne une dimension d'entraînement. Utile pour tester ce qui fonctionne pour soi et suivre des progrès visibles. Le livre se positionne ainsi comme un compagnon de transformation au quotidien plutôt qu'une simple réflexion théorique. En dernier lieu, une approche psychospirituelle accessible. Entre sens et quotidien, le livre revendique une approche psychospirituelle. C'est-à-dire une articulation entre travail intérieur, quête de sens et outils de mieux-être. Cette combinaison peut parler à des lecteurs qui ne se reconnaissent ni dans une psychologie strictement technique, ni dans une spiritualité détachée des réalités émotionnelles. L'autrice propose de revisiter une philosophie millénaire, mais avec un langage contemporain et une intention pratique mieux vivre, mieux se comprendre, et développer une relation plus apaisée à soi et aux autres. Un des apports de ce positionnement, est de rappeler que la transformation ne concerne pas seulement la performance mentale, mais aussi la qualité de présence. La compassion et l'acceptation de l'imperfection. La compassion apparaît comme un état de vie cité explicitement et sert de boussole éthique et relationnelle. Le texte insiste également sur le caractère non définitif des états, on peut évoluer, se relever, apprendre, ce qui donne une tonalité d'espérance sans nier la complexité du vécu. En restant accessible et humain, l'ouvrage cherche à guider sans surplomber, dans le champ du développement personnel, ce mélange de récits. Des exercices et de sens peut aider des lecteurs à relier leurs émotions quotidiennes à une vision plus large de leur cheminement, tout en gardant les pieds sur terre grâce à des pratiques concrètes. En conclusion, vous êtes ce que vous croyez. Elle s'adresse à toute personne qui souhaite mieux comprendre ses états émotionnels et retrouver une capacité d'action intérieure, que ce soit en période de questionnement, de fatigue morale, de transition de vie ou simplement dans une démarche de croissance personnelle. Les lecteurs attirés par une approche menant spiritualité, psychologie et outils concrets y trouveront un cadre clair pour se situer, ainsi qu'une invitation à la bienveillance envers soi. Le bénéfice principal est double une cartographie pour nommer ce qui se vit, et une botte à outils pour expérimenter des changements durables, notamment grâce à une alternance de récits et d'exercices. Elle insistant sur le fait qu'aucun état N est permanent apporte un soulagement utile, car elle réduit la fusion entre identité et émotion du moment. Dans un marché riche en promesses rapides, le livre se distingue par une posture d'auto-accompagnement qui ne diabolise pas les émotions difficiles et qui met l'accent sur la transformation progressive plutôt que sur le contrôle. Son originalité tient aussi à la volonté de relier des apports contemporains présentés comme éclairés par les neurosciences à une sagesse plus ancienne, afin de proposer un chemin praticable au quotidien. Pour les lecteurs qui aiment apprendre en faisant, cet ouvrage peut devenir un support régulier de réflexion et de pratique. Si vous souhaitez soutenir Karine Arsène, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.